Je vous propose maintenant de partir avec Jean Tonelli à la rencontre de Denis Pépin, ingénieur écologue et agronome spécialisé dans la pratique du jardinage bio depuis plus de 30 ans. Premier prix du concours national des jardins potagers de France, il est l'auteur d'ouvrages sur le jardinage biologique, conférencier et journaliste horticole. Il vient d'écrire avec Georges Chauvin un ouvrage qui s'intitule « Coccinelle, prime vert, mésange, la nature au service du jardin ». Une mine d'informations et de savoir-faire, ce livre allie intérêt naturaliste et intérêt du jardinier. Les petites bêtes sauvages et les mauvaises herbes pourraient-elles être au service du jardinier? Loin d'être toujours nuisibles, ces invités surprises sont souvent des aides précieuses pour le jardinier. Pollinisateurs, défenseurs, réparateurs de sol, éboueurs, leur rôle est essentiel et en tirer profit est simple et de bon sens. Denis Pépin au micro de Jean Tonelli.
Donc votre livre aborde des sujets très importants comme l'utilité des insectes qu'on pourrait appeler auxiliaires par rapport aux ravageurs. Ça sous-entend que si on gère de manière assez écologique son jardin, la nature crée un écosystème qui fait que les prédateurs sont en moins grand nombre que ce qu'on pourrait, enfin les ravageurs pardon, sont en moins grand nombre que ce qu'on pourrait le craindre.
Ils peuvent être en permanence contrôlés par leurs ennemis naturels. Et effectivement, tout l'art du jardinier, c'est de donner les conditions pour que ces ennemis naturels soient le plus nombreux possible et présents au maximum toute l'année, quoi. Et non pas de façon fortuite ou passagère. Et puis ça marche, hein, ça marche sur l'essentiel des ravageurs. Évidemment, ça marche pas pour des ravageurs exotiques qui n'ont pas rencontré sur notre territoire depuis quelques dizaines d'années ou récemment leurs ennemis naturels. C'est-à-dire qu'ils sont venus, mais il y en a pas.
Alors justement, là, j'ai envie de rebondir sur cette phrase. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre les recherches de l'INRA qui est de ramener un prédateur, je dirais, local mais exotique pour nous, d'un ravageur qui vient d'être introduit par hasard?
C'est-à-dire que, bien sûr, que on ne peut pas être contre ce genre de recherche. Cela dit, il faut vraiment agir avec énormément de précautions. On l'a vu avec la coccinelle chinoise à Harmonia axyridis, hein, qui est maintenant considérée comme un fléau dans de nombreuses régions de France et en Belgique. Bien sûr, on a introduit l'auxiliaire qui a permis de contrôler le puceron de la Niger, par exemple. Hein. Ça, on l'a introduit au début du siècle dernier. Et ça a été une réussite. Donc quand un ravageur exotique arrive, faut bien essayer de trouver une parade en ramenant également avec lui son auxiliaire spécifique qui va permettre de le contrôler.
Je crois que le dernier grand succès de l'INRA dans ce domaine, ça a été contre la cicadelle.
Voilà.
Il y a eu un prédateur naturel qui a été ramené de Californie, je crois, si ma mémoire est bonne, et qui, sur la Côte d'Azur, a bien fonctionné.
Mmh. Mais il y a énormément de cas comme ça. Si on regarde, par exemple, le cryocère d'Ulysse, en plaine, il fait des ravages dans l'hélice et il y a beaucoup de difficultés pour le contrôler. En montagne, les lys sont rarement attaqués, le cryocère a énormément d'ennemis, et le problème c'est que ces ennemis ne descendent pas dans les plaines. Donc comment faire en sorte qu'on puisse malgré tout les introduire? Donc il y a des recherches qui sont menées, mais le problème c'est que les recherches ne sont faites que sur des cultures très rentables, lorsqu'il y a vraiment des problèmes qui sont économiquement insupportables. Donc on voit bien que ça peut mettre beaucoup de temps pour un certain nombre de problèmes.
D'accord. Mais revenons donc à notre jardin quotidien. L'abus de produits, c'est-à-dire que j'ai l'impression que parfois certains jardiniers amateurs, pleins de bonne volonté, ont tendance à être impatients. Et ce qui fait que lorsqu'ils voient quelques rosiers ou quelques mêmes boutons floraux de rosiers attaqués par des pucerons, ils ont tout de suite envie de dégainer et de les pipipipipip avec un produit chimique.
Oui.
C'est pas le bon réflexe.
Bah, c'est pas le bon réflexe, et puis surtout, c'est une démarche qui est... Enfin, faut vraiment s'interroger sur le sens de ce que l'on fait. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est stratégiquement essentiel dans le jardin de lutter contre les pucerons des rosiers? Moi, je pense que non, parce que pour que des auxiliaires... Il n'y a pas d'enjeu sur le rosier au niveau du jardinier amateur. Les enjeux sont sur les légumes, sur les fruits, là où il y a des productions, et que par rapport au travail que l'on investit et le rendement que l'on veut, qu'on attend pour nourrir sa famille, eh bien, il y a besoin parfois de sauver les récoltes. Donc, un puceron sur un jeune chou qu'on vient de planter ou un envahissement de pucerons sur un cerisier qu'on vient de planter, c'est dramatique. Il faut intervenir. Et puis là, quel que soit, même s'il n'y a pas d'auxiliaire, il faut y aller. Par contre, si un rosier est envahi par des pucerons, bon, c'est pas vraiment bien grave, hein. Le rosier va s'en remettre, des auxiliaires vont arriver. À un moment donné, il se peut que le rosier soit tout noir de pucerons, mais c'est pas vraiment grave.
Non. Mais quand vous dites qu'il faut y aller par rapport à une culture vivrière, il faut y aller comment?
Bah, c'est-à-dire qu'il faut bien connaître les stades qui sont dangereux. Si je reprends l'exemple d'un chou, lorsqu'il est en train de paumer, s'il y a des feuilles basses qui sont envahies de pucerons cendrés, c'est pas vraiment grave. Il va s'en remettre et les auxiliaires vont faire leur travail. Si c'est juste le stade plantule que l'on vient de repiquer dans son jardin et que le chou a déjà du mal à s'installer, alors là, il peut être décimé en un rien de temps par des pucerons ou par des altises, par exemple. Donc là, il n'y a pas le choix. Il faut intervenir parce que les auxiliaires n'auront pas le temps de sauver le chou de la mort assurée. Quoi.
Mais en jardinage bio, l'intervention, ça consisterait en quoi dans ce cas-là?
Oh, bah, dans ce cas-là, soit en préventif on met le chou sous un voile anti-insecte, soit on peut sortir le jet d'eau pour décoller les pucerons sur des feuilles si on n'a pas trop de chou, soit on utilise un insecticide à base de pyrèthre, hein, on peut avoir une hiérarchie dans le traitement, on peut utiliser du savon mou, on peut utiliser différents, mais le principe c'est que quand la plante est en état d'installation et de souffrance et que avec l'expérience, on sait qu'il peut mourir et que la culture peut être condamnée. Il ne faut pas hésiter à intervenir. Par contre, sur des plantes d'ornement, sur des salades, je n'interviens jamais. Sur des poireaux, je n'interviens pas. Parce que là, je sais qu'il n'y a pas d'enjeu et que les plantes vont s'en sortir de toute façon.
Ouais, moi, ce que j'ai constaté, par exemple, sur mes cultures de fèves que je fais en engrais vert, mais je consomme quand même les fèves au printemps, il y a souvent un ou deux pieds de fèves qui sont envahis de pucerons. Et les autres sont sains.
Ben oui, c'est pareil sur les haricots.
Voilà. Et moi, je les laisse. Parce
bien
que
sûr.
Je partage. Et j'ai pas besoin de sortir la grosse artillerie pour supprimer ces quelques pucerons qui somme toute, ont le droit d'exister aussi. Hein.
Parce qu'il faut bien comprendre que si on intervient d'une manière systématique, il n'y aura jamais les auxiliaires. Les auxiliaires ont besoin en permanence dans le jardin de nourriture pour nourrir les larves qui se succèdent au cours de différentes générations. Il y a des auxiliaires qui interviennent au printemps, d'autres en été, d'autres en automne, suivant les espèces. Donc il faut qu'ils aient à manger en permanence, et ce manger, c'est sur les plantes que ça se passe. Donc il faut une diversité de plantes pour avoir une diversité de pucerons, de petites chenilles, de cochenilles, etc. Et ce faisant, il y aura toujours un garde-manger important pour les auxiliaires.
Ouais. Donc là, on est en train de parler du garde-manger. On est en train de parler aussi de l'habitat, puisque vous me dites qu'il faut des plantes différentes pour des plantes hautes. Donc, qu'est-ce que vous conseillerez au niveau d'un jardinier amateur pour créer, au fond, le plus de vie possible dans son jardin?
Alors, pour créer il y a plusieurs choses, parce que quand on parle des auxiliaires, en réalité, on a ceux qui mangent des ravageurs, mais les auxiliaires, ça commence dans le sol, à par exemple les vers de terre qui font un travail considérable pour la fertilité du sol. Donc ce que je conseillerais, c'est en premier, c'est faire son compost et ramener de la matière organique dans le jardin.
On ne jette plus de déchets verts.
On ne jette plus de déchets verts, on fait son compost avec tous les déchets du jardin et de la cuisine. Deuxièmement, donc là, ça va faire travailler les vers de terre, les bactéries, des tas de larves d'insectes, qui seront ensuite dans le cycle du jardin, de l'écosystème jardin. On couvre systématiquement la terre avec des paillis, ces paillis qui vont protéger la terre, qui vont protéger également les auxiliaires pendant l'hiver, notamment. Donc ces paillis qu'on va faire avec les déchets de son jardin. On va arrêter de traiter sa pelouse et accepter toutes les petites fleurs qui poussent sur la pelouse, parce que ces petites fleurs qui fleurissent dès la fin de l'hiver, et puis certaines également en été et en automne, Il n'y a pas mieux pour nourrir des petits auxiliaires tels que des coccinelles ou des micro-guêpes qui vont parasiter les chenilles ou les pucerons. Et on va transformer sa haie de persistant monotone en une haie fleurie dans laquelle on va introduire un certain nombre d'arbustes indigènes, donc selon la région où on habite, par exemple du buis, par exemple du houx, par exemple de la vierne au biais, des choses comme ça, qui vont permettre de nourrir et d'abriter les auxiliaires pendant toute l'année. Et ça, c'est quelque chose de très facile et que l'on peut faire que l'on ait un jardin très carré ou un jardin plus libre, plus sauvage. On peut faire ça partout et ça permet déjà d'entamer fortement, d'aller fortement vers des équilibres écologiques au sein de son jardin.
Oui, je pense aussi qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, apprendre la patience et laisser le temps à l'auxiliaire de réagir par rapport à l'invasion d'un ravageur.
Oui.
Ça demande parfois quelques jours.
Oui.
Voire une petite semaine.
Oui.
Et souvent, quand on voit des pucerons, parfois ils sont vides. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que la chitine du puceron et tout le reste à l'intérieur a été mangé par une larve, d'une coccinelle ou d'autre chose. C'est assez intéressant aussi de ne pas confondre un puceron mort avec un puceron vivant.
Bien entendu, il faut laisser un peu le temps au temps. C'est pour ça qu'il faut hiérarchiser les priorités. Où est-ce que c'est important d'intervenir? Où est-ce qu'on peut laisser faire? Et avec les herbes spontanées, avec les plantes sauvages du jardin, c'est pareil. Lorsque l'on fait un semis, on ne peut supporter aucune herbe indésirable parmi le semis parce que les jeunes plantules peuvent être condamnées. Par contre, qu'il y ait une plante sauvage qui pousse en lisière d'une haie parmi des vivaces, ça ne pose aucun problème, quoi. Donc il faut hiérarchiser les priorités et ça c'est quand même très important. On a tendance à vouloir agir d'une manière uniforme, juxtaboutiste partout, quoi.
Et imaginez d'avoir dans son jardin un petit coin plus sauvage, un petit coin plus naturel, entre guillemets, en laissant justement pousser ces herbes folles. C'est possible, c'est envisageable, c'est souhaitable.
Alors tout dépend de la place de son jardin, bien entendu. Si on a un grand jardin, on peut transformer une partie de sa pelouse en prairie, on peut laisser une lisière herbacée en bordure de sa haie, on peut éventuellement creuser une petite mare, on peut installer un tas de fagots, un petit coin on va laisser les orties, on peut faire tout ça dans un grand jardin, dans un petit jardin de ville, bien entendu la place est comptée, donc on va essayer de la rentabiliser et d'en profiter au maximum, mais ça peut être simplement des feuilles mortes que l'on va glisser, des brindilles que l'on va laisser sous les haies pour abriter des crapauds, des staphylins ou des carabes ou des vers luisants. On va adapter finalement son aménagement en fonction de la taille de son jardin. Tout sera pas possible dans un petit jardin, bien évidemment, mais c'est pas pour autant qu'on peut rien faire. Et on peut installer, quelle que soit la taille de son jardin, des petits abris pour les petites guêpes solitaires qui vont nicher dedans. On peut installer un nichoir pour les oiseaux, on peut installer un petit abri pour les hérissons. Donc on peut faire plein de choses dans son jardin.
Oui, c'est ça qui est merveilleux. Écoutez, en tout cas, moi je vous remercie pour tous ces conseils et je recommande chaudement de se plonger, comme je le disais tout à l'heure, dans votre livre qui est vraiment très très documenté, très bien illustré, plein de bons conseils, de bon sens aussi, et puis beaucoup d'observations qui sont irremplaçables.